France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Parmi les bilans regrettables de 2024, il y a celui-ci. L'année qui vient de s'écouler a été la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, selon les derniers bilans des scientifiques. Et c'est au pôle de notre planète, en Arctique et en Antarctique, que les effets sont particulièrement visibles. En 45 ans, la surface de la banquise a été réduite de 60%. Une fonte des glaces qui relance les explorations, les exploitations de territoires qui sont riches en hydrocarbures. Au pôle se jouent et se rejouent les tensions qui traversent notre planète d'est en ouest. Bataille commerciale et confrontation militaire. Alors comment les pôles sont devenus des territoires à conquérir et à exploiter? Quelles sont les conséquences de ces bouleversements sur les populations qui les habitent? Pour en parler, Camille Escudé, bonsoir.
Bonsoir Quentin Lafay.
Vous êtes géographe, directrice du Centre d'études des sciences politiques à Madagascar. Vous publiez le dossier consacré au pôle de la documentation photographique paru au CNRS Édition. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
Le 2 décembre 2018, je suis allongé dans mon sac de couchage sur mon tapis de sol. Il fait plutôt chaud dans ma tente, c'est assez surprenant. Et quand j'ouvre le zip de la tente pour regarder où je me trouve, eh bien, je vois qu'il a beaucoup neigé cette nuit. Et quand je dis qu'il a beaucoup neigé, c'est qu'il a neigé 20, 25, 30 cm de neige fraîche et que tout autour de moi, eh bien, il y a un parterre en fait de poudreuse. Quand l'Antarctique, c'est un continent qui est évidemment couvert de neige et de glace, mais c'est de la neige qui est compacte, qui est dure parce qu'il neige assez peu finalement sur ce continent. En fait, l'Antarctique, c'est un continent qui est lui-même entouré d'un océan qu'on appelle l'océan Austral, et quand il fait chaud, eh bien cet océan produit plus d'évaporation. Cette évaporation, elle se traduit en nuages, en humidité. Et cette humidité, en allant au-dessus du continent antarctique, eh bien, elle a précipité beaucoup de neige sur le continent. Donc pendant des jours et des jours, moi j'avais des températures proches de zéro, quand il fallait plutôt qu'il fasse moins 15, moins 20 ou moins 25 degrés. Le phénomène de réchauffement climatique, je le connaissais. Ben là, moi, ça me concerne directement et je me dis que j'ai forcément une responsabilité de témoigner de ce que j'ai pu vivre sur place.
Un témoignage diffusé le 1er mars dernier sur France Inter. Il est signé Mathieu Tordeur, explorateur qui s'est rendu pour une expédition jusqu'au pôle sud en 50 jours de marche. Camille Escudé, on l'a dit, hein, l'année 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Pourquoi les pôles, le pôle nord et le pôle sud, sont-ils les espaces les plus exposés, les plus violemment exposés au réchauffement climatique ?
Eh bien, vous l'avez dit en introduction, en fait, les pôles, ce sont à la fois des laboratoires et des sentinelles du réchauffement climatique. Selon le dernier rapport du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, on estime que les pôles se réchauffent de 3 à 4 fois plus vite que le reste de la planète. Donc, vous l'avez bien dit, le premier effet le plus directement visible, c'est la réduction de la banquise, ce qui pourrait entraîner en Arctique, donc au nord de la planète, sa disparition complète d'ici 2050, selon les scientifiques du GIEC. Avec une sorte d'effet de cercle vicieux qui s'appelle l'effet d'albédo, qui fait que plus la glace renvoie davantage d'énergie solaire que l'eau, ça accélère ce processus. Et quand il n'y aura plus de banquise, l'océan se réchauffera encore plus vite. Ça a ensuite d'autres impacts, évidemment, sur la biodiversité, avec par exemple la migration des espèces marines, ce qui modifie les chaînes alimentaires, ce qui affecte les communautés humaines en fin de chaîne. Mais aussi en Antarctique, comme l'a bien dit le journaliste dans votre reportage, la fonte des glaciers qui entraîne un certain nombre d'autres effets, comme par exemple l'élévation du niveau de l'océan et enfin des conséquences globales au niveau de la planète, puisque cela provoque également la hausse du niveau des océans à travers la planète et la modification des systèmes climatiques globaux, avec toujours en bout de chaîne des effets effectivement sur les sociétés et des risques aussi pour les sociétés humaines dans les pôles et pas seulement.
Ce qu'il faut bien comprendre aussi, ce qu'il faut bien expliquer, Camille Escudé, c'est que toutes les glaces ne sont pas frappées de la même manière par le réchauffement climatique, puisqu'on observe une glace de plus en plus jeune au pôle Nord et au pôle Sud. Expliquez-nous ce phénomène. Pourquoi c'est un problème que la glace soit de plus en plus jeune ?
C'est un problème parce que la glace de plus en plus jeune, elle est de plus en plus fine. Donc en fait, la banquise, par exemple, non seulement elle se rétracte à travers les années en termes d'extension, elle est de plus en plus petite, mais également elle est de plus en plus jeune, donc de plus en plus fine. Et ça veut dire qu'elle est tout simplement encore plus fragile face au réchauffement climatique de l'atmosphère, mais aussi des océans, et donc elle va se déliter de plus en plus rapidement. Ça aussi, mais en fait, il n'y a pas que la banquise dans les pôles, il y a aussi d'autres glaces, la glace de terre. Dans votre reportage, on en parlait. parler, c'est ce qu'on appelle l'Inlantis, donc les continents glaciers, comme l'Antarctique, mais comme l'est aussi le Groenland. Et enfin, il y a aussi des territoires qui sont gelés, le sol qui est gelé, c'est ce qu'on appelle le pergélisol, puisque dans les régions polaires, toute une partie du sol est gelée, et en fait, des populations, des villes entières sont construites sur ce sol gelé. Et avec la fonte du pergélisol qu'on observe, ce sont in fine des risques pour les sociétés qui habitent, l'effondrement, par exemple, d'infrastructures, de villages, en plus de la libération de gaz toxiques, d'éventuels virus qu'on trouve dans ces sols. En fait, l'eau, elle est présente sous toutes ses formes, et la glace sous toutes ses formes dans les régions polaires, et donc ça a des impacts à rebond qui sont vraiment très nombreux et très préoccupants.
Alors justement, hein, vous êtes géographe, Camille Escudé, ce qui vous anime particulièrement dans vos travaux, c'est l'impact de ce réchauffement climatique sur les populations qui vivent au pôle Nord et au pôle Sud. Vous avez mentionné quelques éléments de ces impacts, mais quel est-il plus profondément? Comment ces populations peuvent-elles s'adapter, faire face à ce réchauffement climatique aujourd'hui?
La question, c'est vrai qu'elle se pose davantage au pôle Nord qu'au pôle Sud, puisque en Antarctique ne vivent que quelques scientifiques et pas du tout de manière permanente. Il n'y a jamais eu de population permanente en Antarctique. Donc les seules personnes qui y vivent, ce sont des scientifiques pour des hivernages ou des saisons et quelques touristes, mais pas au sens fort. En revanche, au nord de la planète, au nord du cercle polaire, on compte environ 4 millions de personnes qui y habitent, dont à peu près... on va dire 500 000 personnes qu'on appelle des populations autochtones, c'est-à-dire qui étaient présentes avant la colonisation. Donc il y a quand même des villes, on trouve des petites communautés, c'est peut-être la représentation la plus courante qu'on se fait de la notion d'habiter dans l'Arctique. Mais il y a aussi des grandes villes, si je pense à la ville de Mourmansk, qui fait plus de 300 000 habitants, qui est un grand port industriel, qui ressemble peut-être davantage à la vie qu'on peut avoir dans les pays occidentaux. Et ce sont effectivement les populations, quand on est géographe, qui sont aux avant-postes du réchauffement climatique, et en particulier les populations qui habitent dans ces régions. Et c'est là qu'intervient la notion de risque. Un risque en géographie, c'est la conjonction d'un aléa et d'une vulnérabilité. Donc l'aléa, il est provoqué de plus en plus par les conséquences du réchauffement climatique, et la vulnérabilité, elle est liée aux sociétés humaines. Si je prends un exemple, je l'ai mentionné rapidement, mais... Dans les régions polaires, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de villes, beaucoup de maisons sont construites sur le pergélisol, donc la partie du sol gelé, sur des pilotis, tout simplement parce que la chaleur des habitations, la chaleur des infrastructures pourrait faire fondre ce pergélisol. Et quand le pergélisol fond, ce sont des infrastructures qui s'effondrent, ce sont des communautés entières qui s'effondrent, des hôpitaux, des voies de chemin de fer, des routes. Et ça, ça a des risques pour les sociétés. Parmi d'autres effets, on peut aussi mentionner l'érosion marine. Avec le réchauffement des océans, on remarque que l'érosion est de plus en plus importante, et donc ce sont des falaises entières qui disparaissent dans l'océan, et avec éventuellement les habitations qui peuvent être situées dessus. Donc effectivement, c'est aussi les habitants, et en particulier les habitants des régions polaires, qui sont les premiers à pâtir des conséquences du réchauffement climatique, qui est effectivement lié à des phénomènes globaux.
Laissez-moi vous faire entendre, Camille Escudé, un témoignage, une analyse même plutôt du professeur en géopolitique des pôles à Sciences Po Paris, Mika Mered. Il s'exprimait sur France 24 en 2021.
L'Arctique, c'est un grand espace que peu de gens connaissent malheureusement. C'est un espace qui est peuplé par plus de 4 millions de personnes et qui est en fait tout simplement 8 pays, plusieurs continents, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie du Nord-Est, qui encerclent un océan, l'océan Arctique, qui est gelé une partie de l'année. Et ce qui se joue en Arctique, ce sont des enjeux qui sont à la fois universels et complètement transversaux. C'est-à-dire que tout se joue en Arctique. Des enjeux de sécurité, des enjeux énergétiques, des enjeux évidemment de la décision de est-ce qu'on va pouvoir concilier économie et écologie ou pas. Des enjeux évidemment aussi autour des questions des peuples, des questions linguistiques. Et pourquoi c'est un enjeu universel? Parce que ce qui se passe en Arctique touche tout le monde. Qu'on soit au Mali, qu'on soit en Israël, on vient de les invoquer, ou qu'on soit ailleurs dans le monde, ce qui se passe en Arctique va nous toucher d'un point de vue soit climatique, soit par rapport à l'impact de l'Arctique sur la montée du niveau des mers, entre autres choses.
Est-ce que vous abondez, Camille Escudé, ce qui fascine peut-être aussi la chercheuse que vous êtes, c'est que ce qui se joue dans ces espaces, en l'occurrence il s'agissait de l'Arctique, ce qui se joue là-bas, c'est d'abord et avant tout des enjeux de nature universelle?
Oui, sans doute. Je pense que tout chercheur dirait peut-être ça de son air de
pas forcément
de prédilection. En fait, Peut-être que juste ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à oublier qu'en Arctique, ce sont des régions qui sont déjà peuplées, ce sont des régions qui sont exploitées, mais en fait depuis très longtemps. Donc peut-être que nous, en France ou ailleurs, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on découvre récemment. Mais les populations qui vivent en Arctique, vous direz que de tout temps, pour parler comme une mauvaise historienne, de tout temps, il y a eu tous ces enjeux puisque ça correspond à leur vie quotidienne. En effet, ce qui est certain, c'est que par contre, nous, ce sont des enjeux qu'on découvre un peu, de manière assez relativement récente. On parle de plus en plus des pôles, on parle de plus en plus de l'Arctique, parce qu'effectivement, c'est lié à une introduction des territoires polaires dans la géopolitique mondiale et dans la mondialisation. Et ça, on le découvre effectivement assez récemment. On pourrait peut-être dater ce tournant à l'année 2007, quand une expédition russe a planté le drapeau de la Russie au nord du cercle polaire. C'est une image qui est souvent reprise. Et ce drapeau avait été planté plus de 4000 mètres sous la banquise, au niveau du cercle polaire. Et à partir de là, c'est vrai que ça avait été médiatisé dans beaucoup de journaux. Le Monde, par exemple, avait fait des articles. Enfin bref, toute la presse française en avait parlé, la presse en fait internationale. Et cette année 2007, c'était à la fois cet événement-là scientifique, c'était également la première année polaire internationale, et c'était également l'année suivante, 2008, l'année où le département géologique des États-Unis avait publié une grande étude affirmant que à peu près 30% des réserves de gaz à découvrir se trouvaient en Arctique. Donc c'est vrai que nous, Européens, pays occidentaux, on a peut-être découvert les enjeux polaires et les conséquences économiques, climatiques, sociales, politiques que ça pouvait avoir pour nous très récemment, mais en fait les pôles ont plus ou moins toujours été intégrés dans des logiques de guerre, puis peut-être même avant la guerre froide, dès la Première Guerre mondiale, des logiques économiques pour les personnes qui vivent et qui pratiquent une économie de subsistance.
Alors justement, Camille Escudé, à ce sujet, vous écrivez dans cet ouvrage que vous faites paraître au CNRS Éditions. Je vous cite, avec l'érosion des logiques de guerre froide, l'Arctique fait l'expérience d'un changement soudain de statut. Fin de citation. Expliquez-nous la tendance que vous décrivez là.
C'est vrai que la situation en Arctique, elle est aux antipodes, sans mauvais jeu de mots, de celle en Antarctique. Et on les confond parfois. En fait, l'Antarctique est un territoire où les revendications territoriales sont gelées depuis le traité de l'Antarctique de 1959. C'est-à-dire que 7 pays, dont la France, ont revendiqué des territoires, mais les prétentions sont suspendues, les activités militaires sont interdites. Et le protocole de Madrid, dans les années 90, renforce encore ce statut tout à fait exceptionnel à l'échelle mondiale, en faisant, selon la formule dédiée, un continent dédié à la paix et à la science. Donc on pourrait dire que l'Antarctique est complètement gelée. Pas le droit de mener des activités militaires, pas le droit d'exploiter des ressources autrement qu'à des fins scientifiques. Et vous le dites bien, la situation en Arctique, elle est complètement différente, puisque contrairement à l'Antarctique, l'Arctique, c'était effectivement un théâtre de la guerre froide. Depuis la Première Guerre mondiale, depuis même la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des installations militaires, par exemple des États-Unis, au Groenland, en Islande, des installations militaires évidemment russes, puis de l'Union soviétique tout au long de la Russie, qui est le plus grand pays arctique, avec environ la moitié du littoral à l'Arctique. Mais à la fin des années 80, on avait observé une démilitarisation, de la coopération avec avec une architecture institutionnelle relativement solide, notamment la création du Conseil de l'Arctique, qui est le forum qui fonctionnait le mieux et qui a continué à fonctionner relativement bien, réunissant effectivement les 8 États arctiques et en plus des populations autochtones et en plus des États observateurs. Et tout ça fonctionnait relativement bien jusqu'au printemps 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à partir de là, le gel de toutes les procédures, de toutes les instances de coopération. Et ce qu'on peut observer depuis, ça va bientôt faire 3 ans, c'est peut-être un retour, selon certains chercheurs, à des logiques de guerre froide et des logiques de face-à-face entre la Russie d'un côté et les 7 autres États arctiques, dont maintenant tous sont ou vont être des États membres de l'OTAN depuis que la Suède, pardon, et la Finlande ont demandé à entrer dans l'OTAN. Donc c'est quelque chose d'assez inédit qu'on observe, qu'on continue d'observer depuis 3 ans. Environ en Arctique.
Et c'est vrai qu'on avait jusqu'en 2022, Camille Escudé, la perception de cet espace comme un espace très éloigné des conflits du monde, même sanctuarisé avec ce moment, 1996, vous l'avez rappelé, la création du Conseil de l'Arctique. Comment justement la guerre en Ukraine a changé la donne? Vous nous l'avez dit à l'instant, mais surtout quel est l'impact sur les populations, l'impact concret sur cet espace? Comment la guerre reprend aussi ses droits sur l'Arctique aujourd'hui?
C'est vrai que c'est assez inédit parce qu'en fait, un conflit qui a lieu à l'extérieur de la zone a des conséquences directes sur ce qu'on observe dans la zone, et ce, à tous les niveaux géographiques. Donc là, on voit s'entrechoquer le niveau mondial et le niveau régional et même local. Pour prendre un exemple concret, jusqu'en 2022, il y avait des coopérations très fortes de part et d'autre de la frontière entre la Norvège et la Russie, donc dans ce qu'on appelle la région de Barents, des coopérations universitaires, scientifiques, linguistiques, un visa spécifique lié à cette région, qui faisait que très régulièrement des Norvégiens ou des Russes pouvaient aller de l'autre côté de la frontière faire leurs courses dans la partie de la région qui était la plus avantageuse pour eux, des échanges linguistiques, la population qui est largement bilingue, etc. Et ce qu'on a observé depuis 2022, de manière très concrète pour ces populations-là, c'est une fermeture concrète de la frontière et presque plus aucune opportunité aujourd'hui de la passer. Les conséquences directes, c'est aussi pour les populations autochtones qui, depuis la création du Conseil de l'Arctique, avaient une voix au chapitre d'un point de vue régional et même mondial, puisqu'au sein des réunions du Conseil de l'Arctique, ces populations-là pouvaient parler avec des membres observateurs de ce conseil comme la France par exemple ou la Chine, et depuis effectivement le gel de ces instances de coopération, ces populations-là n'ont plus la voix au chapitre régional ou international, en particulier les populations russes qui elles se trouvent muselées et contraintes de ne plus avoir d'accès hors des frontières de la Russie aux autres acteurs de la région.
Il faut dire par ailleurs un mot de la Chine qui devient chaque jour un peu plus un acteur incontournable de la nouvelle attraction des pôles. Comment cette présence chinoise, cette influence, cette marque chinoise s'incarne-t-elle concrètement au pôle Nord et au pôle Sud ?
Je dirais que la première marque, c'est une marque scientifique. En Antarctique, par exemple, la Chine est aujourd'hui la puissance à avoir le plus de bases scientifiques, alors que la France en a une et demie, puisqu'il y a la base de Concordia qui est partagée avec les Italiens. Exactement. La Chine, pardon, vient d'en construire une cinquième. Alors même que la Chine n'est pas un État possessionné comme la France, qui revendique elle la Terre Adélie, par exemple, en Antarctique. Et ce qui amène la Chine à avoir une vision révisionniste du droit international, qui est de dire mais pourquoi est-ce qu'on doit respecter des règles qui ont été faites sans nous. Le traité de l'Antarctique, il date de 1959, on n'était pas une grande puissance et aujourd'hui il faudrait peut-être revoir les choses. Donc la première accroche de la Chine, en Antarctique comme en Arctique d'ailleurs, c'est une accroche scientifique. Ça mène à un deuxième niveau qui est ensuite un niveau économique. Et la Chine est aujourd'hui une puissance polaire de par ses investissements économiques. Pour prendre quelques exemples, des investissements très importants dans les infrastructures ferroviaires dans les pays scandinaves, des investissements très importants en Islande, par exemple, des investissements dans les hydrocarbures aussi, avec la Russie. Et une des autres conséquences, pour faire le lien avec ce qu'on disait de la guerre en Ukraine, c'est que avec le jeu de sanctions contre sanctions entre la Russie et les pays occidentaux, la Russie se tourne de plus en plus vers les puissances orientales, notamment la Chine. Et un troisième ensuite niveau peut-être, c'est le niveau militaire, stratégique, politique. Et là, les avis divergent. Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État de Donald Trump, avait affirmé en 2019, dans un discours retentissant en marge du Conseil de l'Arctique, que la Chine avait des sous-marins nucléaires en Arctique, que la Chine avait investi en l'espace de 5 ans 80 milliards de dollars en Arctique. Personne n'a les moyens de vérifier ces chiffres, je n'ai pas les moyens de le faire, mais je pense que ça donne sinon une vision extrêmement véridique de la réalité stratégique de la Chine en Arctique. Du moins, ça donne en miroir l'idée que les États-Unis, parmi d'autres puissances arctiques, se retrouvent un peu dépassés par la Chine, qui a une présence donc qui n'est pas avérée d'un point de vue militaire, mais en tout cas qui est perçue comme une menace par les autres États, par les autres puissances de l'Arctique et par les autres puissances occidentales.
Par plaisir, par intérêt aussi, Camille Escudé, pour notre sujet. Quelques lignes de 20 000 lieues sous les mers, de Jules Verne évidemment.
Il mesurait 4 à 5 000 de circonférence. Un étroit canal le séparait d'une terre considérable, un continent peut-être, dont nous ne pouvions apercevoir les limites. L'existence de cette terre semblait donner raison aux hypothèses de Maury. L'ingénieur américain a remarqué en effet qu'entre le pôle sud et le 60e parallèle, la mer est couverte de glaces flottantes, de dimensions énormes, qui ne se rencontrent jamais dans l'Atlantique Nord. De ce fait, il a tiré cette conclusion que le cercle antarctique renferme des terres considérables, puisque les icebergs ne peuvent se former en pleine mer, mais seulement sur des côtes. Cependant, le Nautilus, par crainte d'échouer, s'était arrêté à 3 encablures d'une grève que dominait un superbe amoncellement de roches.
Est-ce que la littérature, Camille Escudé, a participé par ailleurs à construire un imaginaire autour des pôles, un imaginaire autour de ces territoires, les dessinant comme des territoires vierges, prêts à être exploités, prêts aussi à être colonisés ?
Oui, bien sûr. Je pense que la culture populaire au sens large, qui passe par la littérature, qui passe par le cinéma, qui peut même passer par les jeux vidéo, par les médias, même par les productions scientifiques, etc., a participé à la construction de cet imaginaire. Jules Verne, c'est un Français. Et cet imaginaire-là, qui passe par la littérature, il véhicule l'idée de territoire vierge, de territoire prêt pour l'exploration, et donc ensuite de territoire prêt pour l'exploitation. Quand vous regardez les unes d'ouvrages de Jules Verne, il n'y a pas d'humain. Il y a juste éventuellement des ours polaires et ensuite de la banquise. Cela effectivement produit cet imaginaire-là de territoire à exploiter, alors même que j'ai déjà dit que ces territoires étaient déjà habités et délimités en termes de droit international, ensuite avec la colonisation d'États comme la Russie qui ont participé à faire de l'Arctique un front pionnier avant de mettre des limites territoriales. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que cet imaginaire, il est aussi paradoxal. Il peut être plein de bonnes intentions, et c'est ce qu'on peut voir avec les velléités de protection de certaines ONG comme Greenpeace, qui veulent absolument protéger, sanctuariser les terres arctiques, parfois sur le modèle de l'Antarctique, en oubliant que ces territoires sont habités, que des personnes vivent aussi des ressources, y compris des ressources extractives, qui certes sont très dommageables pour l'environnement, mais permettent tout de même à des populations de survivre dans un contexte très difficile. C'est ce que certains appellent l'éco-colonialisme, l'idée qu'il faut sanctuariser à tout prix des territoires en oubliant qu'ils sont des territoires habités par certaines personnes qui dépendent aussi de ces ressources.
J'allais justement venir à ce sujet, Camille Escudé. On a été frappé dans l'équipe de Questions du Soir par ce sujet, justement la contradiction apparente, l'antinomie parfois entre le travail des ONG environnementales d'un côté et l'effet sur les peuples autochtones de l'autre. Les intérêts ne se rejoignent pas systématiquement. Vous avez commencé à nous l'expliquer. Est-ce que vous pourriez approfondir pour nous cette réponse ?
Effectivement, c'est pas toujours le cas. Si je prends un exemple concret, en Norvège, la Norvège est un pays qui produit l'électricité à 98% d'origine renouvelable, avec par exemple des barrages hydroélectriques, avec par exemple des parcs éoliennes. Mais ces barrages hydroélectriques, ces parcs éoliennes, ils sont parfois, souvent, construits sur des territoires samis. Donc les populations samis vivent traditionnellement, ces populations autochtones, les seules d'Europe, vivent traditionnellement de l'élevage de rennes. Et donc il y a régulièrement des conflits d'usage pour par exemple l'État norvégien qui veut construire ces parcs éoliennes et les populations samis, elles qui refusent parce que ça rentre en contradiction avec leur mode de vie traditionnel. Donc c'est une vraie question qui se pose, d'autant plus dans un contexte de transition énergétique, ce conflit qui complexifie les rapports un peu parfois simplistes qu'on peut avoir de notre vision, encore une fois, des régions polaires et des régions arctiques.
Pour ajouter un peu de complexité, alors encore un peu plus, vous écrivez que le pôle sud, le pôle nord sont à la fois si loin, si proches, ce sont des mondes qui se rapprochent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Camille Escudé ?
Ce sont des mondes qui se rapprochent parce que nous sommes de plus en plus liés à ces mondes qui, encore une fois, avant faisaient uniquement partie de l'imaginaire. Aujourd'hui, ces mondes-là, ils sont rentrés pleinement dans la mondialisation. Aujourd'hui, on consomme ici du gaz, du pétrole qui vient de l'Arctique, on consomme des ressources qui viennent de l'Arctique, on part en vacances, en tourisme dans des régions arctiques. L'Antarctique, aujourd'hui, comporte 20 fois plus de touristes que de scientifiques. Donc ce sont des régions qui sont pleinement entrées dans la mondialisation, sans en subir parfois, en subissant, beaucoup de désavantages, pas toujours en bénéficiant des ressources et des bons côtés. Et c'est vrai que ça complexifie encore ce rapport-là qu'on peut avoir aux régions polaires qui est multiple, qui est climatique, économique, politique, sociale. Et c'est vrai que dans le contexte de la guerre en Ukraine, on continue à observer avec beaucoup de curiosité, de crainte parfois, ce qui va se passer dans les mois, dans les années qui vont venir.
Sur la question du tourisme, justement, du tourisme occidental notamment, en quelques mots, on voit que l'intérêt des populations est de plus en plus prégnant, important pour ces espaces-là. Quels sont les effets ? Est-ce qu'ils sont uniquement négatifs, ces effets touristiques sur l'Arctique et l'Antarctique, sur l'Arctique plutôt d'ailleurs ?
On peut dire qu'ils sont dommageables pour l'environnement, comme toute activité humaine certainement. Cependant, comme je l'ai dit, il y a des populations qui vivent en Arctique, qui sont des populations qui sont souvent très fragilisées, dont les niveaux de vie socio-économiques sont bien moindres par rapport aux moyennes nationales, qui peuvent voir dans le tourisme une ressource parmi d'autres. En Arctique, il y a des ressources historiques, des ressources extractives, et aujourd'hui, les routes maritimes. Et aujourd'hui, le tourisme fait partie de ces ressources aussi pour les populations locales qui peuvent en bénéficier, qui peuvent en tirer des subsides bienvenus encore une fois, et peut-être bénéficier de cet aspect-là de la mondialisation qui vient toquer à la porte de territoires qui autrefois en étaient vraiment éloignés.
d'un mot quand même, Camille Escudé, comment est-ce qu'on travaille sur les pôles, sur le pôle Nord, sur le pôle Sud, depuis Madagascar ?
En faisant du terrain, ça date un peu. Et après, heureusement, aujourd'hui, on peut quand même parler à des acteurs en visio ou par d'autres moyens. Mais c'est vrai que malheureusement, depuis 2022, une des conséquences, c'est que les terrains de recherche sont fragilisés, notamment en Russie. Et encore une fois, c'est dommage, la Russie, c'est le plus grand acteur des pôles. C'est la moitié de l'Arctique. Et c'est vrai qu'une des conséquences aussi de cette guerre-là, c'est qu'elle empêche la science de continuer à fonctionner de manière normale et de continuer à analyser ce qui se passe dans ces régions polaires.
Merci en tout cas de ces explications limpides et passionnantes, Camille Escudé. Je rappelle que vous êtes géographe, directrice du Centre d'études des sciences politiques à Madagascar. Donc, vous venez de publier le dossier consacré au pôle de la documentation photographique, un ouvrage qui a paru au CNRS Éditions. Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir.